Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup Anne Lehnaf et on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes dans la bonne heure avec notre invité Patrick Hernandez. Merci d'être avec nous. Je vais vous présenter de façon circonstanciée dans un instant, mais d'abord je vous présente tout le monde. Vous avez la Cannes, on le sait, la plus célèbre du monde. Lui, il a le sens de l'à-propos. Il nous parlera des Cannes et des canards.
Voilà, un festival de Cannes pour vous.
Voilà, Marc Giraud pour parler des animaux. Oh, le cerf brame sur vous, à ce que je vois.
Eh oui, oui, c'est toujours animalier. C'est ma collection d'hiver, là, c'est mes pulls maintenant.
Ah, les pulls.
Donc il ne fait que bramer parce qu'il nous avait appris d'autres choses au sujet du cerf.
On n'y revient pas.
Vous allez voir sur les canards, ça va pas être
la musique à l'honneur avec le zapping télé d'Éric Dussard que vous venez d'entendre.
Bonjour, bonjour à tous. Oui, ben, on réécoutera les titres des années 80 avec cette tournée Star 80 qui recommence la semaine prochaine. Alors là, je vous promets les meilleurs titres, mais pas les meilleurs interprètes, puisqu'il s'agira de chanteurs vus sur la chaîne IDF.
Ah oui. Oh non, pas possible.
Ah non, c'est pas possible, pourtant.
Un peu après le journal de midi, le feuilleton du vendredi, Régis Maillot voit dans le bain.
Ah, vous avez trouvé une nouvelle définition à cet acronyme. Bois dans le bain, ouais. VDB,
dans le bain,
ou plutôt la vie de Berne, évidemment. Oh, aujourd'hui.
Vous êtes enrhumé?
Oui, oui, un petit peu enrhumé, oui.
Un peu de merde.
C'est vie de merde.
C'est venu vite, hein.
Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier, puisque c'est le blues de l'automne. Ouais. Hier, c'était la journée de la dépression, et dans l'équipe...
Ça va pas fort. Et pourtant, il y a le salon du chocolat qui ouvre ce soir.
Heureusement.
Je pense que ça va nous redonner un petit peu du moral, le peps. Et on terminera l'émission en musique avec le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Consacré, c'était normal, au 8 du disco. Oui. Ça va chauffer, ça va swinger dans le studio.
Ah, on va gagner, enfin.
Et puis, alors, on jouera Patrick et moi pour un auditeur, mais contre le reste du monde. Et le cadeau pour l'auditeur, eh bien, ou l'auditrice qui aura choisi la bonne équipe, sur au 3210 ou par SMS bonheur 74 900. C'est un séjour offert par weekendesk.fr, spécialiste des courts séjours sur Internet, au Mas des Herbes Blanches, c'est dans le Luberon. Et puis, alors vous étiez, Patrick Hernandez, plus Beatles que Stone. On va parler de la guerre du rock avec un invité surprise à 11h40. Voilà, je vous présente maintenant. Star des années 80, une époque de variété devenue mythique. Il est le héros d'une incroyable saga puisqu'il a atteint les sommets du succès avec un seul titre, une seule chanson dont personne ne voulait au départ et qui lui a valu 54 disques d'or vendus à 25 millions d'exemplaires et toujours classé 3e tube le plus vendu de tous les temps aux États-Unis. Auteur de Born to be Alive, ce tube disco indémodable sorti en 79, il raconte comment du jour au lendemain sa vie a basculé et il est devenu millionnaire en quelques mois alors que depuis cette chanson, eh bien, c'est devenu une rente à vie, hein, un petit peu.
C'est un peu ça.
Un peu ça. Ouais, c'est une rente. Bref, c'est l'histoire d'un succès phénoménal, mais qui a quelque peu occulté la personnalité complexe mais attachante de son auteur, un excentrique au look de dandy qui ne se séparait jamais de sa célèbre canne, aujourd'hui remisée dans un musée. Statufié de son vivant, immortalisé par le film Star 80, il nous rappelle s'il était besoin qu'il est toujours vivant, alive. C'est d'ailleurs le titre de son autobiographie qui vient de paraître aux éditions Mareuil. Ça s'appelle le Live. Avec nous ce matin, Patrick Hernandez.
Bonjour. Ça vous dit quelque chose, cette chanson?
Oui, vaguement. Une chanson écrite en 73, je le rappelle. Elle est sortie en 79 seulement.
Alors, on va en parler, évidemment. Mais d'abord, puisqu'il y a la tournée phénoménale, nouveau spectacle à partir du 4 novembre de Star 80.
Combien de dates? C'est énorme.
50, je
crois. On part pour 150 dates.
150 dates.
Oui, jusqu'au premier trimestre 2018.
Incroyable.
Avec du festival l'été. Enfin, on a une tonne de trucs à faire et ça s'annonce très bien parce qu'on commence à doubler les salles. Donc, on double Nantes, on double Lille, on
triple Paris. Mais vous n'êtes pas tous tout le temps en même temps.
Si.
Il y a Cookie Machin, il y a
Julie Pietri, il y a Julie Machine.
Cookie Machin.
150 dates, va voir.
Cookie Dingler, Cookie Machin.
Vous voyez, achetant des têtes de bois, ils ne prennent pas un engagement sur un si long terme, par exemple.
Ah, ouais, 150 dates, c'est trop. Eux, ils sont morts, ils ne le savent pas. Non, on est les morts vivants.
Très bien. Allez, je vous ai préparé une interview à années 80.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Pardon pour Cookie Dingler, que j'ai appelé Cookie Machin, mais tout d'un coup, ça m'échappait, le Dingler. Alors, j'ai proposé une interview années 80. Donc, je reprends quelques titres des chansons des années 80, mais évidemment, vous dites que ça vous évoque, non pas dans les souvenirs, mais par rapport à votre vie. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première fois?
Oui, avec Jeanne Masse, tout à fait.
Ah, vous avez
non,
fait
mais
ça
c'est pas avec Jeanne Masse votre première fois.
Non, c'était pas avec Jeanne Masse, c'était un peu tard, effectivement. Ah. Oui, effectivement, oui, je me souviens de ma toute première fois, ça ne m'avait pas plu du tout, d'ailleurs.
Pour le plaisir, vous êtes prêt à quoi?
Vraiment à tout.
À tout?
Vraiment à tout.
Pour le plaisir. On vous a déjà dit, t'as le look, Coco.
Ça, pour ce qui est du look, effectivement, j'ai fait quand même très fort.
Oui, c'était pas mal. Voyage, c'est votre truc?
Ah, j'ai beaucoup voyagé, même les hôtesses me disaient « tu voyages beaucoup trop et beaucoup plus que nous » et ça c'est dangereux pour la santé. Il fut une époque où effectivement je passais le lundi à Rome, le mardi à New York, le mercredi à Berlin. Fou, enfin, c'était infernal, ça a duré pendant 3 ans comme ça. Maintenant je suis beaucoup plus sage, je suis dans le Luberon tranquille.
Ah ben voilà. Est-ce que vous prenez Joe le taxi ou Uber?
C'est une chanson Uber. Uber Léonard.
J'ai plutôt tendance à prendre Uber.
Uber, très bien. Il est libre, Max, et vous, vous êtes libre?
Je suis libre en ce moment, tout à fait.
Non, mais je veux dire, libre. C'est drôle. Je veux dire, vous êtes un homme libre. Voilà.
Je suis un homme libre et je suis libre en ce moment.
À qui aimeriez-vous dire justement, on va s'aimer?
Bah, personne.
À la terre entière, parce que finalement, je suis un peu un béni oui-oui, et j'aime vraiment le contact, j'aime les gens, et j'aime partager avec les gens. Donc, en fait, j'aime tout le monde.
C'est vrai que vous êtes plutôt un macho ou plutôt femme libérée, même si c'est pas très facile.
Coquille machin.
Je serais plutôt pas macho du tout.
Oui, oui.
Et qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses?
C'est mon ami Alec Mention.
Non mais là, on peut pas poser des questions personnelles.
C'est le blues.
C'est une chanson.
Je sais que c'est une chanson avec du sard, mais je peux pas poser des questions personnelles. Alors que pendant qu'il tape sur des bambous, vous faites quoi, vous?
La cuisine.
Ah oui, très bien. Mais voilà, c'était Star 80. On va parler maintenant de votre autobiographie dans un instant. Alive.
Chouette.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors, toujours avec Patrick Hernandez, Alive, le titre de votre autobiographie aux éditions Mareuil. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas prononcer votre nom sans l'associer à Born to be Alive. 27 millions d'exemplaires vendus, je sais pas, une cinquantaine de disques d'or dans 27 pays. Aux États-Unis, c'est le troisième tube le plus vendu de l'histoire. Alors, en plus, ça risque pas de changer maintenant.
Personne ne vend quoi que ce soit. Donc,
mais comment vous pouvez expliquer ce succès phénoménal qui a non seulement marqué, changé et guidé votre vie?
Écoutez, les explications sont quand même très difficiles à donner. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs explications. Ce titre est sorti au bon moment, avec le bon arrangement, parce qu'il collait à l'actualité de la musique. Je pense qu'on s'est laissé aucune chance, aucune porte de sortie. On a bien travaillé sur ce titre, effectivement, puisqu'il a fallu quand même 5 ans avant de le sortir. Donc on a eu le temps, et largement le temps, de réfléchir au truc. Et beaucoup de refus. Il a fallu, effectivement, 6 mois avant que les Français daignent s'y intéresser. Il a fallu sortir le disque en Italie et ensuite en Belgique avant que les Français s'en occupent. Ça a coûté la place, d'ailleurs, à l'époque, du patron de CBS. Quand ses patrons à New York ont appris qu'il avait passé 6 mois avant sur Born to be Alive, ils étaient très colères.
Mais ça, vous avez là, vous expliquez la naissance, mais qu'est-ce qui explique que, enfin, elle vit encore cette chanson? Voilà, elle n'a jamais été démodée.
Alors, je crois que c'est, en fait, à la base, moi, je n'aimais pas vraiment le disco. Donc, en fait, on a pris une chanson qui n'était pas disco à la base, qui existait donc depuis 5 ans et qui était un rock pur, un pop rock. Et on l'a adapté d'une certaine façon. Donc, en fait, ça lui a donné une originalité par rapport à ce qui se passait sur le marché, qui était typiquement 150% disco. Ça lui a donné une originalité qui a, pendant un certain temps, été un handicap, puisque personne n'en voulait à cause de son originalité. Le tempo était trop rapide. Born to be Alive est un pléonasme. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, au second degré, ça ne l'est pas. Le nom de l'artiste, on disait que ça faisait...
Qu'est-ce que c'est que cet espagnol?
C'est très méprisant.
Born
to be Alive. Et donc, voilà, tout ça fait que cette chanson était tellement originale que pendant un certain temps, on n'en a pas voulu. Et quand je suis parvenu à passer cette barrière, l'originalité a franchement payé.
Ce sont les clubs qui ont fait votre succès d'abord, les discothèques avant les radios ou pas?
Les discothèques en tout premier lieu, Et très très rapidement, les radios juste derrière. Vraiment, ouais. je crois que je suis resté 37 semaines dans le hit parade.
C'est énorme, c'est incroyable.
C'est absolument incroyable. Mmh. Et cette chanson a une verdeur aujourd'hui qui est tout à fait exceptionnelle.
Oui, ça,
on
ouais.
commence Star 80 par Born to Be Right.
Ouais.
Et tous les soirs, je vois ce partage ouais. incroyable avec les gens qui adorent, toutes générations confondues, cette mmh. chanson. Alors moi qui aime partager, c'est vraiment un bonheur mmh. total. Permanent.
Mais alors, là où on découvre, c'est franchement une injustice dans votre livre, c'est qu'il y a ce titre « Born to Be Alive », mais vous avez fait d'autres choses dans votre ouais. vie et ça n'a jamais marché.
Non, et il a fallu que je me fasse une raison.
Mais oui, c'est ça.
C'est-à-dire que le
comment s'y résoudre c'est une résignation quand même.
Je fais une grande différence entre avoir fait un tube et avoir fait un standard. Pour moi, je suis auteur, compositeur, interprète.
Oui.
Je privilégie le travail de compositeur en mm-hmm. plus parce que j'adore ça. Alors lui, le compositeur a été frustré pendant assez longtemps à cause de ça. Mm. À partir du moment où on est passé du tube au standard, je me suis dit finalement... Pour un auteur-compositeur français, mmh. avoir fait un standard planétaire
oui, beaucoup,
comme Band, avec la verdeur qu'il a encore aujourd'hui, allez, ne crachons pas dans la soupe, ne soyons quand même pas exigeants à ce point-là. Et je m'en suis contenté. Ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, d'écrire des chansons, mmh. de faire des duos un peu impromptus comme ça de temps en temps avec un copain. Et donc, ça ne m'empêche pas de vivre ma vie mmh. d'artiste.
Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Vous connaissez d'autres exemples ?
Ça arrive dans le cinéma.
De gens qui ont fait un tube comme ça.
Des acteurs qui font un film qui va écraser toute leur carrière.
J'ai appris un one-hit wonder.
Tout à fait. Alors, il y a peu d'exemples, mais il y en a vraisemblablement quelques-uns. En tout cas, moi, je m'en contente très bien parce que je trouve que, finalement, c'est quand même très gratifiant d'avoir
bien
fait
sûr.
Quelque chose ouais. de cette importance. Honnêtement, j'aurais fait un tube qui aurait disparu. Je serais en train de ramer aujourd'hui pour essayer de revenir à la surface.
Je ne tiendrais pas le même langage. Dans les années 80, il y en a eu quelques-uns, mais ce n'était pas à ce point international.
Par rapport à mes camarades, effectivement, ils ont tous des standards
français.
Macumba, les chansons d'Émile et Images, par exemple,
sont des
tubes énormes aussi, mais ils n'ont pas effectivement l'envergure de Band Slide qui est planétaire.
Mmh. C'est fou. Alors, en tout cas, ce qui me frappe, c'est que ça a été tellement lent avant.
Oui.
Ça paraît tellement évident quand on écoute Born to Be Alive et de penser qu'il a fallu se battre 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, vous étiez en plein doute en plus. Ne pas savoir si ça allait marcher.
Il a failli finir à la poubelle, ce titre.
Ah oui, en
je vous le garantis. Au bout de 6 mois, heureusement, j'avais deux producteurs. Et un, le producteur musical, qui y croyait dur comme fer. Mmh. L'autre avait déjà abandonné dans sa tête. Mmh. Et si je n'avais eu que celui-là, on n'aurait jamais sorti cette chanson.
Mmh. Est-ce que les Beatles vous ont influencé ? Parce que je crois que vous avez appris l'anglais. En fait, vous parliez assez bien l'anglais. Vous étiez assez doué, et là, vous êtes en Angleterre, et là, c'est un choc
que vous prenez devenir prof d'anglais,
en pleine poire, les Beatles.
J'étais en Angleterre parce que je me destinais au professorat d'anglais, et en fait, mes parents avaient eu la très bonne idée, ou la très mauvaise idée, de m'envoyer en Angleterre, dans une famille à Herne Bay, dans le Kent, pas loin de Canterbury, et... J'ai un jour découvert, effectivement, pour la première fois, j'ai vu en noir et blanc à la télé « She Loves You » des Beatles. Et ça a été un choc absolument incroyable. Je ne m'intéressais pas auparavant à la musique. J'étais un garçon très sage et très studieux. Et là, je suis devenu un petit démon grâce à eux.
Bah oui.
Et
c'est ça qui
m'a amené
faire,
à faire effectivement de la musique et « Born to Be Alive ». Alors merci à M. McCarthy.
Eh bien,
vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Toujours avec Patrick Hernandez et son livre Live et sa biographie publiée aux éditions Mareuil. Marc Giraud est à la une.
À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud.
Alors, canard.
Eh oui, facile, hein, fastoche. Ah oui. Mais c'est quand même de l'actu parce que ma rubrique, c'est aussi une actualité. Demain, c'est le week-end. Et si vous sortez, vous allez peut-être voir, justement, je vais commencer par un quiz. Pourquoi est-ce qu'on dit un froid de canard ?
Ah, est-ce que...
Parce que les canards...
aiment le froid.
Oui, ils sortent par tous les temps.
Ils sortent par tous les temps. Et quand ils ont tellement de couches de duvet, de plumes.
Et de graisse, d'ailleurs, les pauvres, c'est pour ça qu'on les aime.
Oui,
oui en fait, c'est plus que ça, c'est qu'il y a des hivernants, des canards qui habitent dans les pays froids. Et quand il y a un coup de froid là-haut, ils viennent chez nous. Et tous les ornithologues, les naturalistes le savent. Quand on commence à voir des canards, c'est qu'il va faire très, très froid. Donc, quand il fait froid, on voit des canards, d'où l'expression froid de canard.
Ah, voilà. Ils annoncent les frimas.
Voilà, on est un peu leur Afrique. Autant les hirondelles vont dans le sud, autant nous, on est le sud des oiseaux du nord.
Quel genre de canards viennent ?
Alors, il y en a plein. Et justement, si vous allez...
Des Syriens, en ce moment.
Alors, non, ils viennent du Nord. Donc, alors, si je vous dis les noms, Fuligule Milouin, Fuligule Morillon, Fuligule Milouinan, Netros, etc. Oui. Bon,
c'est
Fuligule, ils sont
déjà
magnifiques. Ils sont colorés, vous savez, c'est des oiseaux d'ornement. Ils sont magnifiques. Donc, si vous mettez un coup de jumelle sur les lacs, parce que les canards dorment au milieu des lacs, ce sont souvent des oiseaux nocturnes. On ne sait pas, on les voit, mais c'est plutôt des oiseaux nocturnes. Et il y en a un, et surtout un seul qu'on connaisse, c'est le canard colvert, évidemment, là on le voit tout le temps. Donc je vais vous raconter un peu sa vie.
Ah, c'est le meilleur.
Il est bon.
C'est le meilleur. Mais quelle honte. Gratiné avec des pommes butter.
Avec une l'orange.
J'en attendais pas. Votre curiosité scientifique, je vois qu'elle est très émoussée. Donc la vie des canards, évidemment, la parade nuptiale, c'est intéressant parce que pour plaire aux filles, ils font semblant de se laver.
Ah oui,
c'est curieux, ils se lissent les plumes.
Et pourquoi ils ne le font pas vraiment?
C'est ce qu'on appelle un simulacre de toilettage, parce qu'ils se lissent les plumes pour montrer leurs plumes les plus colorées, qui sont souvent dans le croupion. Vous savez, un canard colvert, à l'arrière, ils ont ce qu'on appelle un miroir. Ce sont des plumes bleu-vert magnifiques qui brillent au soleil. Ah. Et pour plaire aux filles, pour frimer, ils les montrent en se grattant. Quoi. Ils font, voilà, c'est leur manière de plaire.
Après, c'est souvent dans le croupion qu'on a les plus belles plumes.
Absolument. Mais après, ça se complique parce que ça manque de filles, justement, chez les canards. Il y a beaucoup plus de mâles que de femelles. Si vous regardez des canards qui volent, il y a souvent une femelle qui vole, et puis derrière, elle est suivie par au moins un mâle, quelquefois 4, 5, 6, 7.
Mais comment vous les reconnaissez, vous ?
Ah ben, le mâle est très coloré, il a le col vert, justement, et la femelle est très sombre.
Elle a les fesses rouges.
Non, non, non.
Chacun sa couleur.
Elle a mal au croupion.
Donc, ces vilains petits canards, ils sont assez violents. Il y a même des tournantes. J'en ai vu, c'est sérieux. Oui, oui. Il y a même des tentatives de viol en vol. Vous imaginez comme c'est chaud chez eux.
C'est peut-être simplement du ravitaillement.
Non. Pour vous expliquer comment ça marche, il faut que je vous dise que le canard est un des rares oiseaux à avoir un pénis. Les oiseaux n'ont pas de pénis. 97% des oiseaux n'ont pas de petit oiseau, sauf justement les canards et les autruches. Et la palme du pénis le plus grand revient à un petit oiseau, un canard d'Amérique du Sud qui s'appelle l'Iris mature ornée. Son pénis fait 42,5 cm, quand même.
Et il s'enroule autour du cou, il fait quoi?
Alors justement, c'est plus grand que son corps et c'est en tire-bouchon. C'est-à-dire, si on déroulait, ça serait encore pire.
Il y a besoin de personne.
Alors qu'une autruche, le pénis d'une autruche, c'est 20 cm. Donc, vous voyez, c'est énorme.
Énorme, oui.
Et ça, c'est justement... C'est... plus grand que son propre corps.
Tout d'un coup, je pensais à 42 cm.
Oh, c'est pas si énorme que ça.
Ah, mais pour un canard. Quand même.
Pardon, mais même pour un être humain.
Oh, bah. Chacun ses. Hein.
C'est pas un petit oiseau. Hein.
Donc, ils ont une bistouquette tarabiscotée en tire-bouchon. Donc, ça a un rôle parce que la femelle, le mâle, il est entouré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que les voies génitales de la femelle, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système anti-viol.
Il ne peut
rentrer que si elle est consentante, que les organes sont souples et accueillants. Sinon, justement, c'est un système anti-viol, quand même. C'est tout à fait étonnant.
C'est une serrure bloquée.
Avec le changement d'heure ce week-end, ça va pas être simple.
Mais souvent, parce que souvent, on voit, il me semble, un mâle canard est suivi par deux ou trois femelles, non ?
Non, c'est le contraire. La femelle est très terne, parce que comme elle couve et qu'elle pond, elle a des couleurs très discrètes, alors que les mâles qui friment pour briller, justement, ils ont des couleurs très voilà, très c'est bien. Pour ça que les mâles sont plus beaux chez les oiseaux.
Mais super, merci beaucoup Marc Giraud. Alors il y a plusieurs livres, il y a Le sexe à pile des crocodiles chez Delachaux, et puis là, La nature au fil des saisons chez Alary Édition.
Voilà, et dans Le sexe à pile des crocodiles, je raconte les canards.
Très bien, on peut tout
retrouver.
Et le reste. Parfait, on mettra tous les titres sur RTL.fr pour que nos éditeurs puissent retrouver vos livres. Alors, c'est vrai qu'on va vérifier certaines rumeurs, et notamment, est-ce que... C'est vrai que Madonna a été votre choriste et votre danseuse. Eh bien, on va le vérifier dans un instant avec Patrick Hernandez.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
Alors, Patrick Hernandez, j'attaque tout de suite d'emblée là-dessus. Est-ce que c'est vrai que Madonna a été votre choriste et votre danseuse ?
On l'a dit partout, c'est incroyable.
Oui, c'est ce qu'on dit. Il faut que je me remette de cette histoire de canard, là, parce que honnêtement, là,
vous n'êtes pas bien.
Je suis extrêmement troublé sur les queues en tire-bouchon. Madonna, je l'ai rencontrée au cours d'une audition en 1979 à New York avec mon équipe. Nous organisions une audition pour trouver 35 danseurs qui allait m'accompagner dans la promo américaine. Et cette jeune femme, c'est donc, elle avait 19 ans à l'époque, s'est présentée à cette audition. Elle nous a fait une petite démonstration tellement sympathique que l'on s'est dit, vu le talent naissant mais extrêmement intéressant de cette jeune fille, on ne va pas s'amuser à la faire danser derrière Patrick, puisqu'on a le choix, on en a vu des centaines en 2-3 jours. Donc on l'a tout de suite mis dans notre valise et on l'a ramené avec nous en Europe. Et le propos, ce n'était pas de la faire danser derrière moi, c'était de lui faire enregistrer un disque. La production voulait lui faire enregistrer un disque. Chose qu'elle ne voulait pas, parce que la demoiselle, à l'époque, voulait faire du théâtre, du cinéma ou de la danse, mais le fait de mais chanter, ça ne l'intéressait pas. Donc, on a passé un an à se côtoyer.
Vous viviez d'ailleurs en même endroit.
Oui, dans la même maison, 32 boulevard de Courcelles, chez notre producteur commun.
Incroyable.
Et je lui ai... Alors, la seule chose que j'ai pu apporter à cette jeune femme à l'époque, c'est le fait de lui souffler dans l'oreille qu'elle pouvait chanter facilement. Parce que je suis un fan des Beatles, donc j'ai toujours une guitare acoustique à la maison et je joue des chansons qui sont très connues par tout le monde. Et donc, elle chantait avec moi. Et je lui disais, tu vois, tu peux le faire très naturellement et tu le fais très très bien. Alors, peut-être que cette petite... petite conversation dans l'intimité, on fait qu'à un moment, elle a changé son...
Mais d'où est venue la légende qu'elle était votre choriste et votre danseuse ?
Mais ça va très très loin. Parce
que il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu à la télé, derrière vous.
Même des réalisateurs de l'époque qui sont convaincus, mordicus, qu'ils l'ont vu. Alors moi, je peux vous assurer qu'on a beaucoup dansé ensemble, mais dans les boîtes de nuit, mais pas sur
scène.
Et cependant, j'avais des danseuses et des danseurs américains aussi en Europe qui m'accompagnaient pour les télés. Et il y avait une fille qui ressemblait un peu à Madonna, parce que Madonna à l'époque avait les cheveux courts, elle est brune, elle avait les cheveux, elle était un peu punkette dans l'aspect, et je pense que les gens confondent cette danseuse américaine
avec Madonna.
Mais elle se souvient très bien de cette période, Madonna, pour en parler en interview d'ailleurs,
elle en parle assez régulièrement. Mais en tout cas, on l'a bien raconté dans le livre. Y a-t-il d'autres...
Vous êtes toujours en contact ?
De loin en loin, parce que comme je dis souvent, on n'habite pas tout à fait la même planète. J'ai de temps en temps des nouvelles par des gens qui habitent Londres et qu'on a des amis communs qui me disent de temps en temps, voilà, elle t'envoie un bisou. Nous, on a toujours été en très très bon terme, du premier jour jusqu'au dernier. Elle est partie un peu en catimini, d'ailleurs, au bout de cette année que nous avons passée ensemble. Mais on est toujours resté en très bon terme. Quand elle a fait le Parc de Sceaux, notamment, j'étais invité, une espèce d'invité d'honneur un petit peu pour aller la voir. Donc, elle en veut un peu aux producteurs qui n'ont pas vraiment compris son immense talent, puisqu'elle proposait des choses qui étaient refusées. Mais à moi, elle n'en veut pas, absolument pas. On est en très bon terme, mais pas sur les mêmes planètes, effectivement.
Alors, d'autres questions ?
Oui, alors vous êtes fan du spiritisme, il paraît, et d'une façon générale, de tout ce qui fait un peu peur.
De spiritisme,
d'astrologie,
je fais de la méditation, je fais du tai chi, je fais des choses comme ça un petit peu extrême orientale. Mais spiritisme, oui, j'ai mis un peu le doigt dedans quand j'étais plus jeune, mais avec
les planches de
sujet, Ouija et autres. Mais c'est pas vraiment un truc qui me passionne.
C'est plus le canard,
Marc.
En fait, vous êtes du Périgord où il y a beaucoup de canards, mais vous avez élevé des veaux en fait.
Tout à fait. J'étais dans une famille à un moment de gens qui étaient éleveurs de veaux en batterie je leur ai donné un coup de main pendant quelques...
Oui, pour les traire, on a vu ça de l'autre jour.
Faut pas traire les veaux.
Ne traire pas les veaux.
Non, mais il y a une candidate de télé-réalité.
Qui veut traire des veaux,
Qui veut traire des veaux.
Mais ça s'est pas bien passé. Parlons du bonheur de Born to Be Alive, bonheur également sur le plan financier. Très jolie rente. Et c'est vrai qu'on vous a proposé souvent des montages financier justement pour quitter la France, et vous avez toujours souhaité rester ici.
Tout à fait, je suis un garçon qui aime son pays, j'aime l'Europe, j'aime les vieilles pierres, j'aime l'histoire, j'aime les choses des choses simples, mais je ne peux pas, j'ai vécu un tout petit peu aux États-Unis, je me suis aperçu très vite que je ne pourrais pas vivre dans ce pays où les gens se foutent de leurs origines.
Ils n'en ont pas, je veux dire.
Voilà, même les Italiens là-bas, je leur posais la question, leur disant, mais vous vous appelez Ravioli, vous venez d'où, en Italie, je sais pas et je m'en fous. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai besoin de vieilles pierres.
Je ne peux que vous encourager.
Vous êtes tellement franc.
Mais je sais bien, je regarde votre émission à tout à fait régulièrement d'ailleurs.
Bien sûr. Le prochain, c'est le 15 novembre, je le dis.
15 novembre, hein,
ouais. C'est quoi, c'est Churchill, non?
Et non, c'est, là, c'est un inédit sur Madame du Barry, pas celle des faux gras.
Mais c'est dommage, c'est
la canard. La comtesse.
C'est le canard. La comtesse du Barry.
La baronne.
Elle était comtesse.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Nous sommes toujours avec notre invité Patrick Hernandez pour son autobiographie live aux éditions Mareuil. Alors justement, on s'est dit avec Patrice, tiens, on a préparé l'émission, mais puisqu'on parle de stars des années 80, puisqu'on parle de live, on va...
Parce qu'il adore les Beatles.
Vous adorez les Beatles, et que vous êtes plus Beatles que Stones. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de véritables batailles rangées entre les partisans de l'un et les partisans des autres.
Il y a eu des morts, d'ailleurs, à Brighton. Les Mods et les Brockus s'affrontaient très fort.
Eh bien, on va quand même parler des Stones ce matin, avec Dominique Lamblin, auteur avec François Salon de Satisfaction. Comment j'ai survécu à 40 années avec les Rolling Stones. C'est publié chez Larousse et nous avons Dominique en ligne. Bonjour Dominique.
Bonjour Stéphane.
Alors, votre histoire avec les Stones, c'est un peu vous, l'histoire de votre vie.
Bah oui, c'est un peu ma biographie et comme j'ai eu la chance de naître au bon moment pour connaître toutes ces années absolument fantastiques, des 60s et des 70s, et puis bien après, je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques personnes. C'est un peu comme Patrick Hernandez, je me suis dit, autant que mon histoire, ça soit moi qui la raconte.
Mais votre histoire, c'est un truc incroyable. Vous les avez rencontrés pour la première fois quand vous aviez 19 ans, vous étiez étudiant, et c'est à vous qu'on a demandé de leur servir de guide à Paris pour leur premier concert.
Exactement, parce que, si vous voulez, à l'époque, je travaillais un peu dans une société de disques qui s'appelait Decca.
Oui.
Et comme beaucoup de maisons de disques de l'époque, elle était quand même dirigée par des gens qu'on pouvait considérer âgés. Enfin, ils étaient tous entre 40 et 50 ans. Et la dernière chose qu'ils avaient envie de faire, c'était d'aller traîner avec un groupe chevelu... un peu chauffureux.
Oui, bien sûr, oui. Donc ils ont préféré envoyer un gamin de 19 ans.
Exactement, ils se sont dit, tiens, il y a le petit Lamblin qui traîne, là, on va lui demander si ça l'intéresse de le faire. Et effectivement, bon, c'était un cadeau sur un plateau en argent massif.
Mais est-ce que c'était vraiment un cadeau? Parce que comment s'est passée la tournée?
D'abord, c'était que deux jours à Paris, en octobre 64, totalement trépidant, parce que c'est la première fois où j'ai été baigné dans l'ambiance des tournées, des Swinging 60s, des fans, des groupies, etc. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire.
Alors, vous avez vécu, évidemment, le succès de ces concerts qui étaient mythiques, les filles qui se jetaient à vos pieds, etc.
À leurs pieds, plutôt qu'aux miens.
Est-ce que vous ramassiez... Est-ce que vous avez pris des miettes, quand même, je veux dire,
non,
vous n'avez pas profité.
Non, c'était pas...
C'est pas ce qu'on nous a dit.
Toujours,
Arrêtez de ça.
J'ai pris des miettes plus tard, mais peut-être pas
à ce moment-là. Vous racontez que vous avez vécu aussi avec eux les périodes les plus dures, et notamment ce que vous appelez la décadence.
Absolument. Bon, les années 70, c'est même la fin des années 60 et le début des années 70, c'était pas toujours très facile à vivre pour eux comme pour nous.
Il y avait de la croissance, du sexe libre, c'était pénible.
Ils avaient quand même la police qui les harcelait constamment. Ils avaient des problèmes de créativité. Il y avait le déclin de Brian Jones, guitariste qui avait fondé le groupe. Donc c'était très très dur. Et puis après.
Vous racontez une chose, Dominique, qui est vraiment intéressante. C'est qu'on disait toujours les méchants Rolling Stones par opposition aux gentils Beatles. En fait, vous revenez quand même sur cette idée reçue.
Puisque j'ai eu la chance de travailler aussi avec George Harrison. Parce que je savais aussi, parce que si vous voulez, l'antagonisme Rolling Stones Beatles était quand même très très fabriqué par les médias. Parce
Exactement.
Ils étaient très copains et ils vivaient à peu près la même vie, sauf que les Beatles gardaient cette image de petits jeunes gens très portraits. Ouais,
c'était l'image des débuts aussi, surtout.
Absolument, c'est ça. Mmh. Alors que les Rolling Stones, c'était
les voyous.
Des voyous, et ne les laissez surtout pas approcher de vous.
Voilà. Ou de vos pains, oui, ben, on savait ce qu'on risquait. Une dernière question, Dominique Lomelet. Quelle est pour vous la personnalité la plus emblématique des Rolling Stones? C'était Mick Jagger, Keith Richards, qui était
Nicoletta.
Ça change avec les années, avec les décennies plutôt. Je pense que dans les 60s, c'est Brian Jones,
ouais, Mick. Au début.
Puis après, bon, bah, dans les 70s, c'est plutôt Mick parce que Keith est un peu à l'ouest. De façon très polie de le dire.
Oui, restons.
Et puis maintenant, bon, bah, c'est incontestablement Mick et Keith. Mais il ne faut quand même pas négliger l'importance de Charlie Watts, le batteur, qui est peut-être le ciment du groupe. Et je pense que si Charlie n'avait pas été là, peut-être que les Rolling Stones se seraient fait pareil il y a bien longtemps.
Bon, en tout cas, merci de nous en avoir parlé. Satisfaction. C'est publié chez Larousse, c'est passionnant, vraiment. Merci beaucoup, Dominique Lomblin. Eh bien, She Loves You, on va voir si la télé vous aime aussi, avec Éric Dussard dans un instant. En tout cas, lui, il l'aime.
Hein. De belles chansons à venir.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec une autre star des années 80.
Et oui, c'est là qu'il en doit cet immense tube dont tout le monde se souvient, évidemment, et surtout les candidats de ce jeu de W9.
Et vous, Julie, une idée?
En rouge et noir! Ma parole, c'est Jeanne d'Arc! Ma parole, c'est Jeanne d'Arc!
Alors, Jeanne d'Arc, elle chantait pas ça. Éventuellement, allumer le feu, mais en rouge et noir, non. Non, c'était pas elle. Même si elle est effectivement passée du rouge au noir.
J'adore, tellement drôle.
Jeanne d'Arc, non, elle ne fait pas la tournée Star 80. Elle n'est pas disponible.
Non, on ne va pas si loin.
Elle a des problèmes d'acouphènes, en plus, je crois.
On fait le zénith de Rouen, quand même.
Il sera à Rouen, oui, c'est ça.
Elle va mettre le feu à Rouen.
Oui, on va mettre le feu, oui.
Bon, on l'appelle Patrick Hernandez. Vous serez donc à l'affiche de cette tournée Star 80 qui commence la semaine prochaine. Ouais. À chaud pour s'éclater sur tous ces grands classiques de cette période. Mm-hmm. Et sinon, chers auditeurs, si vous ne pouvez pas y aller, eh bien, vous pouvez toujours vous consoler avec les chanteurs de la chaîne IDF1, brillants eux aussi quand il s'agit d'interpréter des tubes des années 80.
Tu es parti sans moi et tu reviens comme un voleur.
Bravo.
Plus rien ne bouge, d'un néon rouge au fond de mon cœur.
Bravo, en plus c'était bien chanté là, t'avais le rythme et tout.
Ah, effectivement, il avait le rythme, mais pas de la bonne chanson, c'est bien le problème.
Oui, c'est ça, c'est pas la même au départ.
D'ailleurs, en parlant de chansons françaises, je vous signale, on a déjà parlé cette semaine que ce soir sur France 3, il y aura une émission présentée par André Manoukian et Wendy Bouchard, où ils nous raconteront l'histoire de grands tubes français, dont notamment ceux de Gérald de Palmas, un chanteur qu'ils aiment beaucoup aussi sur IDF1.
Stéphanie, est-ce que tu es prête?
Oui, je suis prête.
Alors, c'est parti.
Oui. Ok. Non, on va arrêter.
Mais c'est pas mal ça.
Elle a dit c'est pas mal.
Et quand elle dit c'est pas mal, c'est que c'est
elle
vraiment pourri.
Elle a dans les oreilles.
Elle a une gradation différente de la vôtre. Quand c'est pas mal, c'est vraiment l'horreur. Et quand c'est bien, c'est tolérable. Bon, il faudrait qu'il la chante comme ça de Palmas maintenant cette chanson. En tout cas, s'il nous écoute, c'est vrai que c'est joli cette version. La chanson française, c'est donc la spécialité d'IDF1. Qu'il s'agisse d'ailleurs de leurs téléspectateurs ou encore des animatrices. Hein.
Évidemment.
Ah oui, évidemment, ouais, bien sûr. Évidemment, vous connaissez la chanson.
J'aime beaucoup ce mot.
Ah oui, c'est de qui? C'était quel chanteur déjà? C'est Jacques Brel, non?
Je crois que
oui, c'est Jacques Brel, oui. Hein.
Mais oui, évidemment. Et ne me quitte pas, c'était France Gall.
Évidemment.
Ah, ils ont tout bon. Sans fausse note, donc.
Non, c'est horrible. De la musique aussi demain soir sur France 2.
Oui, il y aura Taratata 100% live au Zénith de Paris. 40 artistes sur scène. Pascal Obispo, Imani, Vianney, Slimane, Christophe Maé ou encore Enrico Macias. Alors, je tiens à préciser, le vrai Enrico Macias, puisque au même moment sur TF1 dans Danse avec les Stars, il y aura son meilleur imitateur, Julien Lepers.
Ah. Donnez-moi. Donnez-moi. Dieu vous le rendra.
Oui, donnez-lui ses calmants, s'il vous plaît. Bref, du beau monde pour Staratata, mais il n'y aura pas la chanteuse Christina Aguilera, tout simplement parce que je pense qu'elle n'a pas dû réussir à trouver le zénith de Paris. Vous savez qu'elle a toujours eu des petits soucis de géographie, hein, comme il nous l'avait raconté justement dans Taratata.
Christina Aguilera, elle a répondu lors d'une interview à un journaliste qui lui demandait « Est-ce que vous allez passer au Festival de Cannes ?» Elle a répondu, de point ouvrir le guillemets, « J'espère bien, mais où a-t-il lieu cette année ?»
Non.
Bah, à Deauville, évidemment. Non, mais elle chante un génie dans la bouteille, mais elle n'a pas dans la carafe, en tout cas. Alors, ça, c'est sûr.
Il parlait de canard.
Et on va refermer cette page chanson avec Laurent Delahousse, qui va consacrer son émission « Un jour, un destin, dimanche soir » à Johnny Hallyday. Et j'en connais un qui ne va pas louper ça, évidemment. C'est ce fan absolu vu dans Confessions intimes.
Il restera dans mon cœur. Et personne ne l'enlèvera. Personne. Il n'y a que la mort qui me l'enlèvera. Il n'y a que la mort. Moi, j'ai toujours dit une chose. Hein, le jour où je suis dans ma tombe, je vais être avec mon pantalon en cuir, mes Santiago, mon blouson à franges et mon coussin de Johnny derrière ma tête.
De toute façon, le jour que je ferme les yeux, je te mets tout dans le cercueil. Hein.
Ah bah tu m'étonnes, elle va en profiter pour faire le ménage. Hein. Le gars, son cercueil, ça va être un conteneur de 10 mètres cubes. Et bon, les bas allez, Biblo, alors plus, je peux vous dire.
Elle est bonne Toussaint, tout le monde. Et on termine avec un fléau.
Oui, un fléau, l'AVC. Demain, journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Vous voyez où je veux en venir.
On n'est pas obligé d'en faire.
Rappel des symptômes de l'AVC dans le magazine de la santé.
Troisième grand, ne plus arriver à parler. Brutalement, les mots ne parlent, n'avancent plus. Je suis peut-être en train d'en faire.
Mais quel professionnel. Le type fait un AVC pour que l'on comprenne bien ce que c'est. Voilà, médecin fiable.
Le mec est pro.
Merci beaucoup, Eric Dussard. Allez, on va retrouver Patrick Hernandez dans un court instant pour la suite de la bonne heure. Et puis l'événement, c'est le feuilleton de notre ami, le feuilleton VDB, quoi. Va dans le bain.
La vie de Berne.
Non, Régis Maillot, à tout de suite. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Eh bien voilà, nous sommes avec Patrick Hernandez. Tout se passe bien. On récupère la canne au mois d'avril.
Tout à fait.
En attendant, on a la canne sur la couverture du livre, Alive. Et puis, il y a cette tournée, Star 80. Là, vous êtes avec tout le monde. Hein. Il y a,
tout le monde est
il
là.
Il y a Plastique, Bertrand. Il y a Thierry Pastor. Il y a Lio, début de soirée, Frédéric Feldman, Julie François, Pietri.
Parce que Frédéric n'était pas disponible. François, parce qu'il y a Cookie Machin qui sera déjà là. Ouais, pas,
c'est la tournée presque à propos.
Jean-Michel, à peu près. Frédéric Feldman et Cookie Machin ne peuvent pas se tenter.
Ils sont tous là.
Jean Schultes, ah oui.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il chante?
T'as rien compris. Bon, c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Confidence.
Bon anniversaire à Jean Schultes.
Il y a des gens qui s'en souviennent.
Mais si, Confidence pour Confidence.
Ah oui, voilà. Jean-Pierre Madère, je me souviens.
Il a disparu.
Ah oui. Phil Barnet, je me souviens.
Un enfant de
Patrick
toi.
Patrick Coutin, attendez.
Les filles, j'aime regarder les filles.
Ah, j'aime regarder les filles, voilà. Pauline Esther. Hein.
Oui, je l'adore.
Ah oui, j'adore, oui, c'est ça.
Et Frédéric Feldman,
on sait pas. Émile Images.
Bah, les démons de minuit.
Bah oui, bien sûr. C'est bien, il y en a qui suivent dans le public.
On vient de faire le quiz de Patrice.
Et on retrouve tout ce joli monde sur le film, d'ailleurs, entre parenthèses. Ah oui,
le film Star 80.
Le film Star 80 qui
J'ai
sort en juin.
J'ai pris de l'avance pour le test à l'aveugle. J'ai fait, grâce à vous, une petite vérification.
Oui. Une révision.
Une révision pour gagner tout à l'heure.
Révision des 100 000.
On retrouve Régis Maillot pour le feuilleton VDB.
VDB, la vie de Berne.
Régis Maillot.
Hier, les amis, c'était la journée de la dépression. Une maladie qui touche près de 18% des Français, une maladie souvent mal comprise par les proches. D'ailleurs, dans l'équipe de À la bonne heure, nous n'échappons pas à la règle de l'indifférence.
Tu vois, Maillot, je ne pensais pas que le décès de Carmouze allait tant m'affecter. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Bah, il dit qu'il est pas mort. Qu'on est au resto et qu'il a juste fait une petite sieste après les ortolans.
Ah oui, c'est vrai. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je vois le négatif partout. D'ailleurs, puisque l'heure est aux confidences, Maillot, je crois que je souffre d'une grave dépression.
Patrice, tu peux me passer le pâté en croûte, s'il te plaît?
Mais tu m'écoutes, Maillot! Je te dis que j'ai la dépression!
Ah, oh, bah, c'est pas une raison pour vous moucher dans ma chemise! Oh.
ce que tu peux être insensible. Je m'épanche de mon mal-être existentiel et toi, tu ramènes encore et toujours tout à toi. Oh non, pas ma serviette. Elle m'est douce au nez. Je suis au bord du gouffre, Maillot. Au bord du gouffre.
Mais vous n'êtes pas au bord du gouffre, là. Vous êtes collé à la vitre de la tour d'argent.
Bah oui, c'est un peu ça.
Oui, c'est où?
Est-ce que tu peux être terre à terre, Maillot? Je suis malade.
C'est psychologique, c'est juste le coup de blues de l'automne, c'est classique. Tiens, passez-moi la truffe blanche.
Mais pas du tout, j'ai tous les symptômes de la dépression. Impression d'abandon, d'inutilité, de solitude. En ce moment, j'ai le sentiment d'être François Hollande, mais en moins joufflu.
Ce sont délicieuses, ces aiguillettes de homard.
Et puis, je passe mon temps à pleurer. J'ai l'impression d'être un invité de Frédéric Lopez.
Vous êtes trop sensible. Hein. Une merveille, cette Romanée Conti. Hein. Et vous chialez beaucoup?
Tout le temps, Maillot. Hier, je t'explique. Au petit déjeuner, je prends ma ricorée. Je trouve pas le sucre. Paf, je chiale.
Ah, c'est ballot.
Attends, c'est pas fini. 10 minutes plus tard, je retrouve le sucre, l'émotion, paf, je rechiale.
Un peu plus de gelée de caviar.
Mais sans compter les idées noires, Maillot. J'ai essayé le suicide. Je te déconseille, hein, c'est très dangereux. Failli mourir, c'est des bêtises. Hein. La semaine dernière, j'ai failli y passer.
Ah bon? Oh, Saint-Honoré à la chibouste.
J'ai lu d'un trait le dernier livre de Mazarine Pinjot en écoutant France Culture et après j'ai vidé 6 bouteilles de mon rouscousse dans un bar à eau.
Ah, ça c'est dur, ça a l'air sérieux votre dépression. Vous voulez qu'on en discute? Tiens, vous prendrez bien un café?
Volontiers. Oh, puis non, apportez-moi plutôt une verveine.
Vous avez l'humeur changeante, patron. Ça, c'est un signe majeur de dépression.
Mais qu'est-ce que c'est que ces déductions hâtives? Tu t'es pris pour Psychologie Magazine?
Vous manifestez une hypersensibilité émotionnelle. C'est typique d'une hypocondrie profonde.
Il va se calmer, là, Gérard Miller.
Vous êtes trop dans le cérébral, pas assez dans le ventral. Il faut apprendre à verbaliser votre colère.
Tocard, ça te va comme verbalisation?
La colère, l'insulte, réaction typique du grand dépressif. Il faut que vous consultiez très rapidement un spécialiste.
C'est ça, Maillot. Tu veux me faire interner chez les zinzins pour me prendre ma place? J'ai compris ton manège, hein. Puisque c'est ça, je quitte cette assemblée de comploteurs.
Monsieur Maillot? Oui, c'est moi. Monsieur Bern a laissé ça pour vous. Bah, qu'est-ce que c'est?
L'addition, monsieur.
T'as raison, Patrice. Le coup de la dépression pour ne pas payer la note, il l'avait jamais encore fait. Allez, vous mettrez tout sur le compte de Frédéric Lopez. Ah.
C'était Régis Maillot qui est le 17 novembre à Guipavas près de Brest, le 29 novembre à l'Alhambra à Paris, le 1er décembre à Luçon, le 3 décembre à Aix-les-Bains, le 16 décembre à Châteauneuf-sur-Isère. Et si vous voulez gagner 2 places oui. VIP pour le spectacle de Régis Maillot, qu'est-ce qu'on a
à
de
l'Alhambra.
Plus
c'est VIP à l'Alhambra. Ce qu'on a de plus, c'est qu'on est assis à côté de vous.
Ah, d'accord. Le 29 novembre, alors il faut retweeter, follower, follow et suivre quoi, la vidéo que vous trouverez sur le compte Twitter d'À la Bonne Heure. Il faut faire un follow. Quoi.
Et après, vous pourrez aller dîner avec Stéphane Bern. Ah, c'est ça, là, le cadeau.
Et c'est moi qui paye l'addition.
Évidemment.
Ah, oui. Et voilà.
Vous écoutez RTL.
Moi, président de la République.
Si j'étais président.
Moi, président de la République.
Alors, moi, si j'étais président de la République, est-ce que vous aimeriez d'ailleurs?
Alors, pas du tout.
Non.
Alors, franchement, pas.
Non, il y a trop de boulot.
En plus, la politique est un domaine qui ne me passionne franchement pas. Bon.
Mais tout de même, quand même, est-ce que vous auriez un slogan pour faire une campagne réussie?
Oui, en y réfléchissant un tout petit peu, je dirais...
Born to be alive.
Ça pourrait être
c'est
ça,
pas moi, mal,
je dirais
mal,
non.
Ouais.
Je dirais, je n'ai plus de marche arrière. Alors, droit. Tout droit devant.
Tout droit devant. Droit devant.
Pas mal.
Et quelle musique, puisque vous êtes un compositeur, interprète, un musicien, quelle musique irait bien pour votre campagne?
Alors, si j'avais à choisir d'une manière un petit peu personnelle, je choisirais une chanson que j'ai moi-même enregistrée avec Alec Mention, donc celui qui regarde le cul des Andalouses avec beaucoup de plaisir.
Ah, oui.
Nous avons fait un duo l'année dernière qui n'est pas sorti sur le marché, mais qui est sur le net, qu'on peut trouver très facilement, et qui s'appelle « Changer le monde avec l'amour ».
Changer le monde avec l'amour, prendre le
ça sonne Beatles, hein.
Changer le monde quelques secondes, comme dans la chanson.
Et ben voilà, changer le monde avec
voilà.
Très bien.
C'est un beau postulat.
Est-ce que vous êtes prêt pour le quiz, le test à l'aveugle de Patrice Carmouche?
Je suis pas
Star
très
80.
Bon. Je suis pas très
ah ben
bon.
Il faut m'aider déjà. Parce qu'on joue pour deux, pour des auditeurs. Donc
sont vos collègues un peu quand même. Hein.
Ah oui. Alors, on se retrouve tout de suite pour retrouver Patrice Carmouche.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouche.
Alors je rappelle que nous jouons pour un week-end au Mas Provençal des Herbes Blanches. C'est dans le Luberon. C'est un cadeau sublime qui est offert par weekendesk.fr, spécialiste des courts séjours sur Internet, avec accès au spa Sotis dans un décor minéral. En tout cas, c'est un endroit magique. Et si on ne gagne pas, ben c'est, on perd, mais on a un lot de consolation. 1 kilo de chocolat de Jeff de Bruges, avec 2 places pour aller dès ce soir voir le salon, enfin participer au salon du chocolat à la porte de Versailles. Alors, nous jouons pour Solange, vous et moi, Patrick, et le reste du monde joue pour Nicolas.
Alors là, on va commencer avec, alors, en dehors de Born to be Alive, il y a quelques titres aussi comme ça qui ont traversé les décennies et qui sont toujours diffusés parmi les titres les plus diffusés en discothèque. Hein. Alors, il y a par exemple ça, qui chante ça, c'est Contre-Marc.
C'est qui ?
Allez, Claude François.
Ouais. Claude François.
Claude François.
Oui, mais c'est un peu tard.
Ah, vas-y, vas-y.
Non, non, Marc,
c'est
oui, un peu tard.
Ah, oui. C'est quand même assez dégueulasse ce système. Hein.
Oui.
On a une équipe de 2 personnes contre une seule. C'est quand même honteux.
Deuxième.
Sinon, on l'avait. Hein.
Deuxième titre, c'est pour Régis.
Émilie, les démons de minuit. C'est.
Émilie,
Image.
J'ai dit tout. C'est, non, c'est
Régis Cagnon. De la nuit.
C'est Image.
Image tout court.
Image, le démon de minuit. Mario Ramsamy.
Arrêtez de regarder. Non, non, non. Moi, je joue pas contre lui, viens regarder.
Bon, un partout. J'ai rien vu.
Un partout.
Bah, vous avez quand même regardé.
Eric.
J'ai essayé de voir. J'ai
non,
rien
là,
vu.
C'est caché, c'est caché. Ça se cache. C'est peut-être moins facile, ça.
Eric. Ah oui, c'est Loubeya, non, Jibobo, Loubeya. C'est un Madison, mais
ça j'ai un trou là, oui.
C'est anglo-saxon.
Ah oui, attends.
Ouais.
Si on passe à 15h, je l'ai.
Donne la réponse là.
Ouais, pas.
Chris Anderson, ouais. DJ Robbie, ça s'appelle Last Night.
C'est pointu, voilà. Ça.
C'est pointu. Ouais.
Inconnu au bataillon.
Inconnu au bataillon.
Si on connaît la
mélodie, bon, alors on vous redonne une chance à Eric avec ça.
S'il vous plaît. Début de soirée. Qu'on écoute plutôt en fin de soirée, généralement.
Oh, nous on s'en va et on laisse.
Non, non, je veux 2-1, c'est pas.
2-1, on est bien là.
On est bien, ouais.
2-1 pour nous, hein.
Pour vous. Oui, pour vous. Pour le reste du monde.
Si vous ne perdez pas aujourd'hui.
Régis, vous êtes prêt là-dessus?
Gilbert Montagné.
Gilbert Montagné,
viens danser, ouais.
Mais il va plus vite, c'est ça,
il va plus vite. Mais
oui, nous on est un peu lent là.
3-1.
Et Marc représente dans le reste du monde.
Dis donc, Marc, vous aider.
Avec ça.
Mais j'entends bien.
YMCA, Village People.
Bon. Ah merde, je me suis trompé de toute façon.
Enfin, moi, c'est chanson de. Hein, ça va bien. C'est chanson de machin, là.
De et... marin, ouais. De marin, là.
Ça va, hein. Il n'y a pas que des marins. Ah. Il y a les policiers.
Il y a les policiers et pompiers, non?
Oui.
Il y en a bien.
L'Indien, il y avait l'Indien aussi.
Et l'Indien, oui.
Donc ça fait 3-2, Sam. Maître Sam,
3-2. Ça fait 3-2 pour le reste du monde.
Et attention, là, c'est Régis qui représente le reste du monde et c'est facile, ça.
Ah oui,
ah oui,
c'est
Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor.
Non.
Gaynor.
Gaynor.
Gaynor. Ah d'accord.
Gloria Gaynor. C'est le nom qu'il faut trouver.
Oui, absolument. Gloria Gaynor.
Le titre.
3 partout.
3 partout. Eric.
D'accord, d'accord.
Ah, c'est Donna Summer.
Non,
Donna Ross.
Non, c'est Donna Summer.
Donna Summer.
Yes.
Non, non, j'ai commencé à le donner avant vous.
Ah non,
mais j'ai une petite hésitation. Merci Stéphane.
Moi j'ai dit Donald.
C'est pour Stéphane.
Maître Sam, combien?
Merci Stéphane.
4-2 pour l'équipe de Stéphane et de Patrick.
4-3, non?
4-3.
Vendredi, je suis en forme. Moi, j'ai vendredi.
Non, mais ça va pas se passer comme ça.
Régis.
J'ai plus de soleil.
Régis,
après.
Vous êtes prêts? Le chic, chic,
freak
chic,
out.
C'est fric.
Le chic,
le chic, c'est fric. Yes. 4-4.
Égalité.
Arrêtez!
Alors attention, vous avez bu à boire. Il est... Mais vous écrivez dans quel corps?
Obligé d'écrire en 6. Il écrit en 6.
L'alphabet cyrillique.
Je dis à plus, il faut changer mes verres. Hein. Je n'arrive plus.
C'est du 18.
Je ne vois plus rien sur votre
J'ai une paire de jumelles.
Attention, c'est égalité, donc c'est le titre qui départage. Hein.
Yeah. Ah bah.
Yes. Ah oui. Eh bien,
c'est donc Nicolas
qui part dans le numéro en masse des herbes de Provence.
C'est juste comme il parle, Patrice Carmousse, comme adresseur allemand, comme si c'était son chien.
Parce que, non, je sais que là-dessus, vous êtes très très fort, quand même.
C'est vrai qu'en rabat,
j'ai un rabat, vous connaissez tout, donc il a un master rabat.
C'est vrai, c'est vrai.
Eh bien,
c'est comme un boucher.
En tout cas, merci à weekendesque.fr pour ce très beau cadeau. Et puis 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges et 2 places pour le salon du chocolat
pour Solange.
Pour Solange. Merci Patrick Hernandez.
Merci
on a passé
à vous.
Un très bon moment. Je renvoie à la lecture de votre livre Alive. C'est publié aux éditions Mareuil. Et puis samedi dimanche à 13h30 sur RTL, on peut écouter Éric Dussard. On fait et on refait la télé. Quel est votre invité?
Avec Jeanne, nous recevons cette semaine Lio. Donc nous allons parler.
Et puis, les invités de la semaine prochaine, lundi, c'est la chanteuse Juliette. Mardi, c'est Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt. Mercredi, c'est Thierry Lhermitte et Valérie Carcenti. Jeudi, Fred Testo. Et vendredi, Christiana Reali. Merci à tous. Passez un excellent week-end de la Toussaint. Et ben voilà, merci à tous. Et à lundi, RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.